C'est de nouveau une paracha un peu triste, puisqu'elle est endeuillée. C'est vraiment grand deuil. Il y a le deuil d'Aaron, et puis aussi la condamnation à mort la condamnation de Moshe et Aaron qui n'entreront pas en Eretz Israël, et comme on est déjà après la Ptira de Myriam, donc le fameux triplet, la fameuse Dream Team là, des enfants de Amram et Yocheved, de Moshe, Aaron et Myriam, on annonce leur disparition ou leur disparition prochaine. La paracha, elle commence par la para Adouma. On va nous parler d'abord de la para Adouma. Et bien entendu, je pense que je n'ai pas besoin de vous répéter en gros ce qui est écrit dans para Adouma. Vous savez ce que c'est la procédure de sortie du contact avec la mort. Quand quelqu'un a eu affaire avec un mort, il a besoin d'en sortir, et pour en sortir, il y a une procédure, il y a la procédure de la para adouma. Sur cette para adouma, il y a beaucoup de questions. Ça commence tout de suite, en fait. C'est Zot Chukat HaTorah. Ceci est la chouka, c'est-à-dire le décret, le côté décret de la Torah, le décret de la Torah, Asher Siva Hashem, et un ordre qu'Hashem a donné les morts, dit à Moshe Rabbeinu, d'Aber El Bene Israël, Vikru Elecha Afara Aduma, ils prendront les Bene Israël, l'amèneront vers toi, ils amèneront une vache Adouma. A priori, Adouma, ça veut dire rouge, mais on ne sait évidemment pas du tout quelle teinte de rouge est ici indiquée. C'est quoi une para Adouma? C'est quoi vermillon? C'est roux? C'est. Bref. Tmima. Le mot tmima ici, a priori, il va sur para adouma pour dire qu'elle doit être entièrement adouma. Alors, le entièrement en question pose bien sûr la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un poil noir ou deux poils noirs ou plus de poils noirs? Est-ce que du coup, la para en question, elle ne peut pas être utilisée pour la procédure en question? Et s'il y a un chiour, quel est le chiour en question? En tout cas, ça doit être suffisamment rouge pour qu'on puisse appeler ça tmima. Acherin bamoum, bien sûr, c'est un animal qui ne doit avoir aucun défaut, comme aucun des défauts qui sont interdits dans les corbanotes. C'est pas un corban du tout, mais sur ce plan-là, c'est à la même rigueur, en fait. L'Ohala Aléaol, c'est une bête sur laquelle on n'a jamais mis de joug. Et on va aller plus loin, on va dire quasiment qu'on n'a jamais utilisé la bête pour transporter quoi que ce soit. Et puis il y a la procédure, tout ce qu'on va en faire, comme vous savez, on va faire la shrita, on va brûler la bête, on va prendre les cendres de cette para adouma. Et on va les mélanger avec de l'eau de source et encore un petit peu de choses. Et on va utiliser cette eau-là, qui va s'appeler par la suite ou bien Mechatat. En général, ça s'appelle Mechatat. Mais Mechatat, ça veut dire justement ces eaux. En français, on dit les eaux lustrales, si j'ai bien compris. Donc, c'est l'aspersion, troisième et le septième jour de la procédure de purification de celui qui était Tamémet. On asperge, ça veut dire on jette des petites gouttelettes sur lui pour le purifier. Et puis il y a ce paradoxe que tout le monde connaît, à savoir que le Cohen qui va asperger la personne impure pour la rendre pure, lui-même va devenir impur. Pas de la même impureté, bien entendu, mais il va aussi devenir impur, une espèce de paradoxe. Donc ça aura à voir, on va avoir des problèmes avec les tzedoukim de nouveau, etc. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est appelé chuka? Parce que dans les mitzvot, on sait qu'il y a des mitzvot, il y a des chukim, il y a des torot, il y a des mishpatim, etc. Alors Rashi explique, le fiché à Satan ve'ahumot ha'olam monim et Israël lomar ma mitzvah, c'est le Satan et les goyim disent aux Bnei Israël, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah que vous fabriquez là, ma tam yeshba, quel est le rationnel dans ce que vous faites là? Lefichach katav ba chuka. Pour ça que ce soit bien clair, on annonce tout de suite la couleur, c'est une chuka. C'est-à-dire, gzera hi milfanai di Hashem, en lecha reshut leharer acharea. Tu n'as pas le droit de réfléchir à cette mitzvah-là. Alors, quand est-ce que cette paracha a été donnée? Alors, le Netziv dit Baruch, chez parachat para nemra mikvar. C'est sûr que la paracha de para adouma, elle a été déjà dite auparavant. Charé, puisque betarat alvim ktiv azaleem mechatat. Quand on a purifié les Lvim pour qu'ils puissent entrer en service, ils ont été purifiés avec Mechatat, justement avec ces eaux lustrales. Et donc c'est au tout début, c'est bien avant ce dont on parle maintenant. Vetania beseder olam, barishon bechodesh nissan, ukama mishkan. Alors, il y a un midrash qui s'appelle Seder Olam, qui dit, le premier jour du mois de Nissan, on a érigé le Mishkan. Le second jour, Nisrefa Apara. Et le deuxième jour, on a fabriqué la Para Adouma. Imken, Lama Nirteva Kan. Alors, la question dit le Netziv, c'est pourquoi est-ce qu'elle est écrite ici, à cet endroit-là? Est-ce que par Amrou Bemoed Katan, dans la Sechet Moed Katan, Dav Kafret, on a déjà dit, Lama Nismecha Parashat Para Lemitat Myriam, parce que la dernière chose dont on a parlé dans la parasha précédente, essentiellement, c'est la parasha du décès de Myriam, pour te dire que Shem Shepara Mechaperet, car Mitat Myriam Mechaperet. De la même manière que la para est mechaperet, de la même manière la mort de Myriam est mechaperet. Alors, ce texte-là, il est un peu problématique. On ne va pas s'arrêter là-dessus, mais je voulais quand même faire la remarque. C'est qu'il est dit de la même manière que la para est mechaperet. D'abord, où est-ce qu'on voit que la para adouma, elle apporte une kapara, elle apporte une tahara, mais pourquoi est-ce que on parle ici de kapara? Alors, dans le texte, effectivement, il va y avoir ce genre d'ambiguïté, un kapara, etc., mais essentiellement, la para adouma, elle ne vient pas pour ça. Et c'est intéressant, c'est que Le texte en question, il est après la mort de Myriam. Or, on dit, de même que la para est mechaperet, la mort de Myriam aussi est mechaperet. Ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour entendre quelque chose de l'ordre de la kapara sur la mort de Myriam, il faut regarder ce qui est écrit après. Ce n'est pas toujours très évident. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ok. Donc la question, c'est, première question, pourquoi est-ce que pourquoi c'est pas marqué Zot Chukat Hapara? Pourquoi c'est marqué Chukat Torah? Parce que ce qu'on écrit ici, c'est la Torah de la Para Aduma, c'est-à-dire les lois de la Para Aduma. Donc on aurait dû dire, voilà, les chukim de la para aduma. Ok, alors Rav Hofstetter ici, dans le Rav de, qui a créé l'Irshuni, dans son commentaire sur la Torah, il dit la chose suivante. Il pose la question et il dit la chose suivante. Il dit vrai Chazal. En fait, il ramène le Rashi, n'est-ce pas? Le Rashi qu'on a relu. Vous vous souvenez, le Rashi, donc, il vient de dire que c'est une chouka parce qu'Hachem dit, en réponse aux accusations du Satan et des Omota Olam, il dit c'est un xéra, point barre. C'est un décret divin, point barre. Et donc, le Inyan de Chouka, il veut dire, il fait référence au fait qu'on ne connaît pas la raison de la para aduma. Mais dans le, il faut tout de suite que vous sachiez que dans le Midrash Rabba, le Midbar, c'est marqué que le Moshe Rabbeinu Nidgala Ta'ama Shel Mitzvazu. Moshe Rabbeinu, il connaissait la raison. Donc, ce n'est pas que personne ne la connaissait. Moshe Rabbeinu, lui, il la connaissait. C'est sur cette halakha de la para aduma que Shlomo HaMelech a dit, c'est le verset qui est cité dans, enfin, qui est prévu, c'est un verset de Kohelet, « Amarti erkama, vi rechoka mimeni » Shlomo HaMelech pensait que voilà, il maîtrisait la sagesse, et quand il s'est retrouvé devant ce paradouma qui ne comprenait rien du tout, il a dit en vérité, la sagesse c'est quelque chose qui est encore très loin de moi, ou je suis encore très loin de la maîtrise de la sagesse, de la forma. Mais parce que l'égoïme, comme Rachid l'a dit, nous embête avec cette mitzvah. Le fichar katav bar huka. Et le farshim pose la question. Pourquoi c'est comme ça? Tu n'avais qu'à écrire, la Torah, qu'à écrire huka tapara, huka tatara. Bien, c'est la loi de la purification. Pourquoi est-ce que dafka, la para, est appelée huka? Le fait même que les goyim nous attaquent sur cette mitzvah-là, c'est-à-dire de façon plus générale, disons, sur tout ce qui est de l'ordre des chukim, donc de ces lois sans qu'on en connaisse, dont on ne connaît pas, nous, en tout cas, la raison, c'est des mitzvot qui, pour nous, se donnent comme si elles n'avaient pas de raison. Mais c'est marqué, en vérité, plus tard, dans Sefer Dvarim, c'est marqué Ré, regarde, Limati etrem chukim ou mishpatim. Je vous ai enseigné des chukim et des mishpatim. Ushmartem vasitem, vous les garderez, vous les pratiquerez. Ki hi chokhmatrem ou binatrem leine ou amim. Parce que justement, ce sont là votre, l'expression de votre sagesse, de votre compréhension des choses, aux yeux des peuples, Asher Ishmeu, net kol achukim ha'ele, ve'amru, rak am chacham ve'navon agoy agadol haze. Que les goyim vont reconnaître la valeur de ces chukim de la Torah, et ils vont dire la louange des Bnei Israël qui pratiquent, qui connaissent des chukim, des lois comme celle-là. Bon, c'est aussi une question que Rabbeinu Bechaye a posée. Mais bon, c'est vrai, c'est une question. C'est marqué que les goyim, Kacher goyim mitbonenim bechok atzmo, demaase ha-mitzvah, et menasim la-vino, et ils essayent de comprendre, ça éveille chez eux un étonnement. Peut-être dans cet étonnement, il y a aussi éventuellement une moquerie. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'idée est aussi que quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils s'en moquent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les maîtres de la compréhension des choses. Le Midrash, il s'exprime de la manière suivante. Shal Oved Kochavim Echad et Rabban Yochanan Ben Zakkai. Il y a un idolâtre qui a interrogé Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il lui a dit, Ilen Uvdaya Datun Avdim, ces choses que vous faites là, ces maasim que vous faites. Nirin Kemin Kshafim, ça ressemble à de la magie. Atem mevim para, sorfim ota, kotshin ota. Vous amenez une vache, vous la brûlez, vous écrasez les cendres, et vous prenez ces cendres, et chad mikem metame le met. Il y en a un qui se rend impur par contact avec un mort, et on asperge deux, trois gouttes d'eau de cette eau-là. Et vous lui dites, voilà, tu es pur. Ou bien mettre d'avarze caché la vino, charé et faire appara, moïl le taer et atmim, veloode et lâche ou metame et atéorim. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a ce fameux paradoxe que ça purifie les impurs, mais ça impurifie les purs. Le Kohen qui fait le travail, il va devenir impur. Mais quand on réfléchit, quand les goyim réfléchissent, sur le sujet même d'accomplir les mitzvot de la Torah, mitzvot parmi lesquels il y a des chukim, c'est-à-dire dont on ne connaît pas les raisons, ils sont bien obligés de reconnaître la hauteur des mitzvot de la Torah. Parce que toutes les mitzvot de la Torah forment un tout. Hukim u'mishpatim tzadikim. Amkachim u'meromemim et mekaymehen. Cet ensemble de mitzvot sanctifie, élève ceux qui les pratiquent. Et en fait, ça leur donne même la vie. Le Ran, dans ses drachot, le Ran, c'est un des Rishonim. Il y a une suite de drachot qu'il a faites. Dans l'une d'entre elles, il explique « Shim yaseh adam davar she'en botam » Si quelqu'un fait quelque chose qui n'a pas de raison, quelque chose de totalement irrationnel. « Areshim lo tetse mimenu toelet brura » Alors, s'il n'en sort rien de positif, alors on doit considérer ce bonhomme comme un idiot. Mais si effectivement, avec sa pratique, il en sort quelque chose de très très, de très très bon et de très utile, alors on va considérer que cette personne est un chacham. Bien qu'en réalité, les gens ne comprennent rien du tout à ce qu'il a fait. On va l'appeler néanmoins chacham. La chokhma, ça fait référence à une certaine science, à une compréhension des choses. Les gens ne comprennent pas du tout ce qu'il a fait, néanmoins on l'appelle chacham. Et le Ran explique d'après ça la relation des peuples, donc des goyim, au chokim du clan Israël. Et il dit « Ki ha'amim she'iru etchem mekayemim ha'chukim ha'ele » Les peuples qui vont vous voir pratiquer ces lois-là, « She'en adat maskemet bahem » C'est les lois avec lesquelles le dat, ça semble inintelligent en tout cas. Et quand ils voient que ça entraîne quand même la présence divine dans le clan d'Israël. Que la Shrina est proche, plus proche d'Ebné Israël que d'eux-mêmes. Alors ils seront obligés de dire que, effectivement, ces Chukim nous paraissent idiots, mais évidemment que ce n'est pas le cas. On doit reconnaître qu'il s'agit d'ici de Chokhma, de sagesse et de l'intelligence de ce peuple qui pratique ces lois-là. Et le Ran explique encore qu'au contraire, c'est justement à partir des Chukim que la Chokhma de la Torah se manifeste. Parce que des Dinim et des Mishpatim, tous les peuples en ont. Leur but, c'est d'assurer la vie en société, garantir le shalom, en quelque sorte, entre eux. Mais eux, en pratiquant cela, ils ne s'élèvent pas du tout. Comme le clan Israël s'élève en pratiquant les mitzvot. Donc ils sont obligés de reconnaître que la qualité du peuple juif ne vient pas seulement des mishpatim de la Torah. Pas seulement du côté mishpat, pas seulement du côté des lois compréhensibles, mais aussi des chukim, des lois a priori incompréhensibles. Donc quand les goyim comprennent l'impact de ces chukim sur le clan Israël, bien qu'ils ne sachent pas du tout comment ça fonctionne, ne connaissent pas vraiment tous les chukim, ils ne comprennent pas, et au moins, ils reconnaissent qu'il y a là une chokhma très, très profonde dans ces lois-là, dans ces chukim. Donc, on peut peut-être comprendre pourquoi la Torah a utilisé l'expression chukat ha-Torah pour chukat ha-para. Parce qu'ici, il y a là une réponse générale au Umot HaOlam. Quand puisque ce n'est pas pour rien que justement Rashi ramène que sur cette mitzvah-là, il nous attaque. C'est-à-dire, c'est chokat la Torah, c'est-à-dire, ne réfléchissez pas à chokat la para. Ne réfléchissez pas sur la loi spécifique de la para d'Uma. Il faut que vous regardiez chokat la Torah. Vous regardiez l'ensemble des chokim. L'ensemble des chokim et des mishpatim. Que vous, à ce moment-là, quand vous les regardez dans leur ensemble, vous verrez qu'ils sont tzadikim. Que grâce à ça, on s'élève. Grâce à ça, on obtient la présence de la Shrina. On accède à une vie plus élevée. Donc, l'idée, c'est, on ne veut pas que, puisqu'ils vont attaquer la Chokat HaPara, il faut, quelque part, c'est une façon de répondre, ne regardez pas le problème de la para. Regardez l'ensemble de toutes les mitzvot, en particulier l'ensemble de tous les chokim. Donc ça, c'est une chose, une première remarque de ce Rav David, etc. Alors, l'idée que il ne faille pas regarder la para, les lois de la para séparément. On retrouve, je vais répéter un peu ce que j'ai dit récemment. Lorsqu'Akadosh nous a donné les Aseret HaDibrot, avant de nous les donner tels qu'on les lit, enfin, Anochi, etc., le Passouk dit, Akadosh Baruch Hu a dit les 10 commandements, les 10 paroles en question, il les a dites toutes à la fois. Quelque chose que personne ne peut faire ni entendre. Et bien entendu, la question qui se pose, c'est, puisque c'était inaudible pour les Bnei Israël, ça veut dire que tout ce qu'on en sait, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit qu'Hachem les a donnés en même temps, mais on n'a pas expérimenté du tout qu'il les a donnés en même temps, puisque c'est incapable. Un être humain est incapable d'entendre les 10 paroles en même temps. Ça veut dire que ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, on te dit, Hachem les a dites en même temps. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on m'enseigne qu'elles doivent être dites en même temps, toutes en même temps, avant d'être déployées les unes après les autres pour qu'on puisse, nous, les entendre. C'est pour nous dire, justement, ne t'imagine pas que les Aseret HaDibrot que tu as entendues, alors il y a la première, la deuxième, la troisième, etc., c'est pas du tout ça. Si tu veux entendre vraiment les Aseret HaDibrot, tu dois les entendre toutes ensemble. Alors, c'est pas quelque chose d'audible, mais néanmoins, ça veut dire que tu dois les entendre au sens de les comprendre toutes ensemble. Précisément, si tu t'imagines que quand tu étudies l'otirtsar, l'interdit de tuer, tu vas te concentrer sur cet interdit, tu vas regarder toutes les dynimes qu'on en déduit, etc. Et tu auras compris ce qui a été dit à ce moment-là sur l'otirtsar. Sache que ce n'est pas vrai, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris parce que si tu ne comprends pas que le lotirtsar, il ne s'entend pas vraiment, si on n'entend pas en même temps Kibud Av Va'em, en même temps Shabbat, en même temps Anochi, etc. Si ça ne forme pas un tout, tu n'as pas compris. Alors effectivement, si Hachem ne nous avait, si la Torah n'avait simplement rapporté ce qu'Hachem nous a dit et que nous avons pu entendre, on n'entendrait pas que ça forme un tout. C'est un tout, ça veut dire que tu ne peux pas faire ton marché dans les Aseret HaDibrot. Ça je prends, ça je ne prends pas, etc. On sait très bien que les Goïm, ils ont fait leur marché là-dedans. Ils ont enlevé certaines choses, ils en ont mis d'autres à la place, etc. Ils parlent des 10 commandements, mais ce ne sont pas nos 10 commandements. Ce n'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Donc c'est fondamental de, c'est ce qu'on vient de dire ici sur la Parah Adouma, c'est fondamental de comprendre que les mitzvot, que ce soit des chukim, des mishpatim, etc., ça n'a de sens, ça n'a vraiment son plein sens que si on les prend tous ensemble. Et donc ça devient assez difficile, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir m'apporter dans ma compréhension de « tu ne tueras pas » la mitzvah de Kibud Av Va'em ou plus encore la mitzvah de Shabbat. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut les étudier chacune pour soi, bien sûr, mais il faut les enrichir en quelque sorte de tout ce que les autres mitzvot disent. Aussi. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Hachem les a dit toutes en même temps. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a rien entendu, nous. Pourquoi on nous le dit d'une chose pareille dans la Torah? Et donc, en particulier, si tu prends la Parah Adouma, si tu la prends toute seule, tu ne comprends rien du tout. Donc, ce n'est pas seulement dans Aseret HaDibrot, mais c'est dans toute la Torah. Les chukim de la Torah, les mitzvot de la Torah, elles sont emet. Satku Yachdav. Elles ne sont justes, elles ne sont audibles, parfaitement, vraiment compréhensibles, seulement si on les prend toutes ensemble. Et ça, c'est absolument fondamental. Et du coup, on peut s'interroger sur la chose suivante. Au moment de Shirim sur Shavuot, elle fait remarquer que on ne pouvait pas caractériser Shavuot par le fait que c'était Matan Torah et que Matan Torah, ça voulait dire qu'on nous a donné les mitzvot. Bien sûr, on a reçu les mitzvot. Mais ça ne peut pas être ça, la caractéristique du Matan Torah. Parce que on a déjà reçu des mitzvot avant Matan Torah. À Mara, dans l'affaire, quand il y avait ces eaux amères, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a indiqué à Moshe Rabbeinu de prendre un certain bois, on va expliquer que c'était aussi un bois amer, et qu'on a traité le mal par le mal, si vous voulez, Moshe Rabbeinu a jeté sur l'ordre d'Hachem, ce bois-là dans les eaux amères qui sont devenues douces. À cet endroit-là, là où il s'est fait ce miracle, que l'eau a été adoucie par un bout de bois qu'on jette, mais en plus, qu'il y avait un nes dans le nes, puisque le bout de bois qu'on a jeté, c'était en plus un bois amer. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a donné une dizaine de mitzvot. Et dans ces mitzvot, il y avait Parah Adouma. Il y avait Kibud Av Va'em, il y avait Shabbat. Et il y avait les dinim, c'est-à-dire, si vous voulez, le code civil, en gros. En particulier, justement, dans le code civil. Les codes civils, il y en a dans toutes les civilisations. Et même s'il existe des codes civils qui, partiellement en tout cas, ressemblent énormément aux dynimes de la Torah, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir en particulier parce que le fondement des dynimes et le fondement du code civil, Napoléon ou n'importe lequel, n'importe, sont radicalement différents. Le fondement de toutes les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu nous a ordonné des mitzvot, point barre. C'est ça le fondement de toutes les mitzvot. C'est l'expression de la volonté d'Hachem. Du coup, c'est pas cette expression-là qui est à l'œuvre dans n'importe quel autre code civil. Donc même si le résultat est le même, mais la raison profonde et le but recherché par l'application de ces lois-là sont radicalement différents. Et justement, on va devoir se poser la question. Parah Adouma a été donné en même temps que Shabbat. Parah Adouma a été donné en même temps que les Dinim à Mara. Donc on va se demander, on va devoir se demander, pourquoi est-ce que ça fait partie de ce paquet-là? C'est un paquet particulier, le paquet ce qui nous a été donné à Mara. Après que les autres mitzvot, mais celle-là est tentée, Shabbat a bien été répété dans la Seret Adibrot. Shabbat a été donné à Mara, mais bien, c'est une des Aseret Adibrot. Donc, même si, premièrement, on peut considérer que ça a été répété pour dire des choses un petit peu différentes, mais même si on disait que c'est exactement la même chose, mais peut-être que ce qui était important, c'est de la faire apparaître dans le paquet des Aseret Adibrot, après être déjà apparu dans le paquet de ce qui a été donné à Mara. Donc, puisqu'il y a des interactions spécifiques entre la Aseret Adibrot et du coup aussi entre les mitzvot qui ont été données à Mara, bien que elles n'ont pas été données elles toutes ensemble, mais elles ont été données dans le cadre de Mara. Peut-être c'est moins fort comme liant, si vous voulez, qu'un Aseret Adibrot, mais il y a un lien, évidemment. Donc, on peut poser une première question. Pourquoi, justement, Parah Adouma a été donné à Mara? Quel est le lien? Qu'est-ce que ça apporte à Parah Adouma d'avoir été donné à Mara? Ça a été redonné, bien sûr, par la suite. En vérité, dans la Gemara, dans Gittin, je l'ai déjà dit en passant dans ce que je viens de dire avant, mais c'est un peu rapidement, c'est que dans la Gemara, dans Gittin, il est rapporté d'abord que la Parah Adouma, elle a été donnée au moment où on a érigé le Mishkan. Vous vous souvenez, on avait dit que Yom Rishon Mishkan, Yom Sheni Srefat Apara. Mais il y a une autre explication, qui est celle que je vous viens de donner maintenant, qui est que ça a été donné à Mara. C'est marqué dans le pasouk, Sham Samlo Chok Mishpat. Là-bas, donc, le Sham, c'est à l'endroit de Mara. Et la Gemara, c'est intéressant, elle dit, pourquoi ça a été donné à ce moment-là? À ce moment-là, on leur a donné l'expression de la Gemara, c'est Miktsat parshiot shel Torah. On leur a donné quelques-unes des parshiot de la Torah, She'it asku bahem, pour qu'ils s'occupent de ça. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont dans le désert, ils n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de spiritualité, puisque le matériel est assuré. C'est Hachem qui assure l'intendance. Donc ils n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper. Et donc on leur a donné des mitzvot pour qu'ils s'occupent avec ces mitzvot. Ça a l'air d'être un peu léger, quoi. Mais en tout cas, le Inyan, c'est pas que. C'est toujours le terme She'it Asku Bahem. Pour qu'ils s'occupent avec ça. C'est pas simplement les étudier, n'est-ce pas? En faire son essai, en faire son affaire, c'est-à-dire y penser sans cesse et confronter tout ce qu'on apprend avec toutes les situations de la vie. C'est comme ça, essai Katora. Même que quand vous avez un sujet qui vous préoccupe, qui vous intéresse, que vous voulez absolument développer, il n'y a pas de moment où ce sujet n'est pas présent dans votre esprit. Ce n'est pas que vous en occupez de 5 à 7 et puis ensuite on s'occupe d'autre chose. Les gens qui écrivent une thèse ou qui développent un projet, etc., ça prend tout leur temps. Chit Asku, c'est ça, en faire son essai, son affaire. On peut comprendre qu'on nous donne le Shabbat avant toutes les autres mitzvot. Parce que Shabbat, c'est Ikare Haemuna, Yisodé HaTorah, Yisodé HaDat. On comprend aussi qu'on nous donne, par exemple, les dinim. Les dinim, c'est nécessaire pour que la société soit paisible, que ne soit pas la jungle. Il faut qu'il y ait des lois. Donc on comprend que ces dîners mamonotes, essentiellement, on les donne très rapidement. C'est des choses nécessaires pour la société, pour que la vie du peuple juif se déroule d'une certaine manière. Ben il faut justement la définir, la faire entrer dans certains cadres, etc. Ça, c'est les nîmes de Mamonot qui vont gérer tout ça. Mais la para Adouma, franchement dit, à quoi ça sert? Pourquoi s'occuper de para Adouma? Pourquoi donner ça avant les autres mitzvot? Avant Matan Torah, on nous a déjà donné pour para Adouma. Rashi qui dit que ça a été donné à Mara. Donc ça veut dire, en vérité, non seulement, on ne voit pas très bien, ce n'est pas une affaire de cause de tous les jours, mais en plus on ne comprend rien du tout parce que ça veut dire, Mara c'est avant le Mishkan. Mais si on n'a pas le Mishkan, on ne peut pas faire la parade aux mains. Marqué dans le pasouk, Veiza el nochar pneo el moed vidama sheva peamim. Nochar pneo el moed, c'est en face de Mishkan, il n'y a pas de Mishkan à ce moment-là. Donc la mitzvah, en tout cas, elle pouvait faire l'objet d'une étude, mais en aucun cas elle pouvait faire l'objet d'une mise en pratique. Bon, ça aussi, on peut réfléchir et se dire que si on prend ces trois sujets de Shabbat, Dinim et Para Adouma, le Shabbat, c'est les fondements théoriques, si on peut parler comme ça, de Ikare Haemuna, Et dinim, c'est rendre la société possible, réfléchir à comment vivre en société. Et paradouma, c'est, voilà, il y a des lois, c'est tout de suite se confronter à des lois dont on ne comprend pas pourquoi elles sont comme ceci ou plutôt que autrement. Et en plus, sûr que pour l'instant, c'est uniquement l'objet d'une réflexion théorique, sans mise en pratique possible. Alors on peut remarquer pourquoi est-ce que ça a été donné à Mara. C'est parce que je rappelle donc que à Mara, il y a eu un Nes, on peut même dire Nes, le Tornes. Marqué Vayoreu Hashem Eitz. Hashem a indiqué à Moshe Rabbeinu un bois. Vayashlech Elamaim. Il a jeté ce bâton dans l'eau. Vaim tekou amaim. Et l'eau s'en est trouvée adoucie. Sham sam lo chok umishpat sham nisav. C'est-à-dire, après que Hachem ait fait ce miracle de l'adoucissement de l'eau, les Bnei Israël méritaient qu'on leur donne justement ces mitzvot de Shabbat, d'Inim et Para. Et c'est ce qui a été fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Concernant justement ce Nes qui a été fait au Bnei Israël. Ce miracle. Boré. Bien, regarde. Kama mouflaim drachav shel HaKadosh Baruch Hu yoter midrachav basar vadam, midarke basar vadam. Parce que basar vadam, le matok, rappelé tamar. HaKadosh Baruch Hu bemar me rappelé tamar. C'est un sort nes betof nes. Donc là, le midrash fait remarquer que la différence entre l'action divine et l'action humaine, l'action humaine, elle fonctionne selon des règles, c'est-à-dire que si on veut adoucir, il faut ajouter de l'eau, du doux, en fait. Mais HaKadosh Baruch Hu, avec la mer, il peut réparer la mer, en fait, enlever l'amertume. C'est un es betof nes. Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas eu d'eau à ce moment-là pour les Bnei Israël, c'était bien sûr une épreuve concernant la confiance que les Bnei Israël allaient donner, manifester à Hachem. Et là, la réponse, enfin, dans ce sujet-là, il y a eu le fameux miracle de cet adoucissement de l'eau pour enseigner aux Bnei Israël la différence entre les actes divins et les actes humains, comme on vient de voir. Dans notre paracha, on trouve quelque chose d'analogue. Et quand les Bnei Israël se sont plaints, ou se pétaient, quand beaucoup l'ont envoyé les fameux Nechashim à Sorfim, l'ont envoyé les serpents brûleurs, ça veut dire que la morsure des serpents était une brûlure en fait. Et quand beaucoup a dit à Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu a dit, mais il faut arrêter ça. Alors Hachem a dit à Moshe, Asse lecha saraf, fabrique-toi un de ces serpents brûleurs, simoto al-nes, mets-le sur un bâton, et que toute personne qui a été mordue par le serpent, piquée par le serpent, regarde ce serpent-là sur le bâton, et ça le fera revivre. Ça le fera vivre. Le Ramban explique que ça fait partie des Darkei Torah, que toutes les actions de la Torah sont toujours Nes betoch Nes. Asir anezek bamazik, frappé à choli bamachli. Va enlever le dommage avec le dommage et guérir le malade avec la maladie, en quelque sorte. Bon, on connaît ça un petit peu en médecine dans certains cas. Ce que Hachem voulait leur montrer au peuple d'Israël, l'odiam qui Hachem m'émit ou m'effraie. C'est pas le serpent qui fait mourir la morsure du serpent, mais c'est Hachem qui décide qui vit et qui meurt. Et d'après ça, on peut comprendre pourquoi les peuple d'Israël ont reçu la mitzvah de Parah Adouma, Amara. Cette mitzvah qui s'appelle Chuka, parce qu'il y a des halakhot très très profondes, à savoir qu'on va purifier l'impur et impurifier le pur. Et donc ça, pour cette raison, les gens qui regardent ça, ils ne comprennent rien du tout, évidemment, c'est logique. C'est difficile à accepter, c'est difficile à pratiquer. Les Bnei Israël ont reçu cette mitzvah-là de Parah Adouma Amara. Après, la Kadosh Baruch Hu leur a fait ce fameux Nes Betoch Nes, ce miracle dans le miracle, le d'adoucissement de l'eau, pour les fortifier dans leur émouna, en Hachem. Et que du coup, fort de cette émouna qu'ils ont gagné avec le miracle de l'eau adoucie, ils vont pouvoir accepter la chouka de Para, même s'ils n'y comprennent rien du tout. Parce que ce qui est important, c'est que finalement, le bâton qui était un bois amer, ça dépend du décret d'Hachem. Des fois, cette amertume-là, elle va adoucir, et des fois, elle ne va pas adoucir. Et ça dépend uniquement de la volonté de l'Hachem. Ça, c'est, si on regarde le paquet, en quelque sorte, un élément, en regardant le paquet, les choses qui ont été données à Mara. Si maintenant on regarde ce qui est écrit dans notre paracha, on a que il y a une smichut, justement, une juxtaposition de Parah Adouma et de Memriva. L'histoire de Memriva, c'est l'histoire donc de l'eau, du rocher que Moshe Rabbeinu a frappé au lieu de lui parler. Donc il y avait ce fameux rocher qui donnait de l'eau au temps de Myriam. Il y avait de l'eau qui sortait de quelque chose qui était, semble-t-il, complètement sec. Quoi. Il n'y avait pas de... Mais en fait, il y avait une espèce de source à l'intérieur de ce... qui était invisible à l'intérieur de ce rocher, qui faisait qu'il donnait de l'eau. Il donnait de l'eau pour les Bnei Israël durant toute la vie de Myriam. Mais à un moment donné, Hachem a ordonné à Moshe et à Aaron Et il leur a dit, Vidibartem et la Sela. Vous allez parler au rocher, l'ENEM aux yeux de tout le clan d'Israël. Il va vous obéir, Benatan Memav, il va donner de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les Israël, qui l'avait mis en colère, etc. Et du coup, il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau, finalement. Il a frappé. Et Hachem a dit, il a dit à Moshe et à Aaron, il leur a dit, Yann lo emantem bi le'akdisheni, parce que vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël. Ça veut dire ici que le Kiddush Hashem et le renforcement de la Emouna, c'était ça finalement la raison du miracle. Fortifier la Emouna, et faire un Kiddush Hashem aux yeux des Bnei Israël. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, les deux sujets vont ensemble. En fait. Ce qui s'est passé à Meriva, c'est la chose suivante. Quand Moshe Rabbeinu était en Mitzrayim, devant Paro, il utilisait un bâton, le fameux bâton sur lequel les makot étaient écrites, etc. Mais bien sûr que l'usage du bâton pour manifester la puissance d'Hachem, c'était très ambigu. La preuve, c'est que quand Moshe Rabbeinu est arrivé devant Paro et qu'il a voulu l'impressionner, ou je sais pas, et qu'il a jeté son bâton à terre et que le bâton est devenu un serpent, Paro a éclaté de rire. Il a fait venir des écoles de magie et tous les gosses sont arrivés avec des bâtons. Ils ont jeté par terre et sont tous devenus des serpents. Bien entendu, leur bâton à eux, ce n'était pas des bâtons, c'était des serpents drogués, qui, quand ils ont été jetés par terre, se sont remis à bouger. Alors, bien sûr que si Paro avait regardé les choses jusqu'au bout, il aurait compris qu'il ne s'agissait pas de magie ordinaire. Parce que, évidemment, Paro, il ne regarde pas. À partir du moment où il a dit, oh, tu me fais rigoler avec ton histoire de bâton, tu n'avais pas amené la magie en Égypte. La magie, c'est nous les spécialistes. Alors qu'est-ce que tu vas m'impressionner avec ta magie, Et? Il n'a pas vu, Paro. C'est que c'est sous forme de bâton, le bâton de Moshe Rabbeinu a avalé tous les serpents, les petits bâtonnets, là. Il les a avalés. Mais sous forme de bâton. Mais ça, Paro ne regardait déjà plus. Mais en tout cas, vous voyez, ce bâton-là, il apparaît comme un bâton de magie. Alors ça va mettre un certain temps jusqu'à ce que les Égyptiens comprennent que ce n'est pas de la magie. Jusqu'au moment où ils vont dire, mais ça ne marche pas parce que nous, on est des spécialistes et la magie, elle peut se faire seulement si on a une... Si on a un certain volume de matière, et dans l'histoire, là-bas, ils étaient confrontés, il n'y avait pas de volume suffisant pour faire de la magie. Ils ont dit « Etzba Elohim », c'est le doigt d'Elohim. Les parents n'ont pas voulu entendre, ça, vous souvenez. Donc, ils ont compris que ce n'était pas de la magie, eux. Mais au départ, ça se présentait comme de la magie. La deuxième étape, Hachem donne à Moshe Rabbeinu l'ordre de fendre la mer. Il lui avait dit de prendre son bâton. Et ensuite, il lui dit, étends ta main sur l'eau, sur la mer. Il fend la mer. Donc ici, on ne parle plus du bâton. Mais il a le bâton dans la main, mais l'important, c'est la main. Donc on a passé du bâton à la main. Et ce qu'Hachem a donné comme ordre maintenant à Moshe et à Aaron, c'est de passer de la main à la parole. Montrer que la parole humaine, quand elle est prescrite par Hachem, elle est complètement créatrice. C'est une parole qui est créatrice comme la parole divine, si on peut parler comme ça. Donc c'est la parole va pouvoir s'adresser au rocher et le rocher va obéir. Il va obéir à la parole humaine prescrite par Hachem. Techniquement, ça n'a pas marché. Alors, attendez, je vous leur dis, « Lo emantem bi, vous ne m'avez pas fait suffisamment confiance pour me sanctifier. » Le sommet de la sanctification d'Hachem, ça aurait été de montrer justement que l'ordre d'Hachem par la bouche de l'homme a cette puissance. Tout le monde aurait vu les Nehem. Alors, devant les yeux de, aux yeux de tout le monde, c'était ça qu'Hachem voulait montrer. Et malheureusement, à cause de la conduite du peuple, et Moshe Rabbeinu qui s'est mis en colère, etc., Moshe Rabbeinu a régressé. Parce qu'il n'est pas remonté seulement à la main, il est remonté au bâton. Il a frappé avec le bâton. Alors, ça a marché. C'est toujours extraordinaire. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de frapper un rocher pour qu'il vous donne de l'eau. Je ne sais pas, peut-être que vous y arrivez, mais en général, ça ne marche pas tellement. Le fait que ça ait marché, c'est déjà totalement miraculeux. Ça montre la puissance d'Hachem, mais ça ne le montre pas de la façon dont Hachem voulait que ce soit montré. Il n'y a pas le kiddush Hachem qu'Hachem voulait qu'il y ait de cette manière-là. C'est ça la gravité de la chose. Ça veut dire que il s'agit de construire la Emouna. Là, en l'occurrence, c'est intéressant, c'est considéré, ça a l'air comme assez énorme de dire que Moshe Aaron n'avait pas suffisamment d'Emouna en Hachem. Lo he'eman tembi lag nisheni. D'accord, on dit pas à Moshe Rabbeinu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Moshe Rabbeinu, le rocher, il était retourné se mettre parmi les autres rochers, donc Moshe Rabbeinu ne savait plus exactement de quel rocher il s'agissait. Et la pression du peuple sans arrêt, donc il s'est énervé, il s'est trompé de rocher. Le rocher auquel il a parlé n'a pas répondu, parce que ce n'était pas le bon. Ça a eu des conséquences absolument dramatiques, n'est-ce pas? Hachem dit à Moshe et à Aaron, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Ça veut dire on ne va pas entrer en Eretz Israël. HaKadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu n'a pas voulu aller parler pour délivrer les Bnei Israël de Mitzrayim, parce qu'il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron. Hachem lui a dit, alors après, il a résisté, puis ensuite, quand il est allé, Hachem l'a envoyé parler à Paro, et comme vous savez, la résultante de son intervention, c'était une aggravation de la situation. Alors Moshe Rabbeinu s'est plaint, Il a accusé Hachem, il lui a dit, comment c'est, tu m'as envoyé, et suite à mon intervention, il y a eu une aggravation de la situation du clan d'Israël. Hachem lui a dit, à t'attirer, maintenant tu vas voir. Chazal explique, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro, et tu ne verras pas ce que je ferai aux 31 rois au moment de la conquête des rois d'Israël. Donc à ce moment-là déjà, Hachem avait condamné Moshe Rabbeinu. Il n'entrerait pas en Eretz Israël. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs fois où Hachem a pardonné, et Moshe Rabbeinu pensait qu'Hachem lui avait pardonné et qu'il allait pouvoir y entrer. Et il semble qu'il ait eu raison. Parce que sinon, quand Hachem lui dit « Vous n'entrerez pas en Eretz Israël », mais si de toute manière il ne devait pas entrer, ce n'est pas une sanction sur ce qu'ils ont fait. Si on dit que c'est la sanction sur le fait de l'Oeman Tembi la Agdiseni, ça veut dire que sans cela, il serait entré. Donc vous voyez les conséquences faramineuses de cette erreur de Moshe Rabbeinu, qui a été poussée à l'erreur par le peuple, en fait. Sinon, l'histoire était terminée. Moshe Rabbeinu serait entré, il serait entré comme Mashiach. Donc, cette paracha qui nous montre ce qu'Hachem aurait voulu qu'il se passe est juxtaposée à Paraaduma. Paraaduma qui a été donnée justement à Mara, etc. Et ici, on te dit, voilà. Donc, les deux sujets sont très proches de la Emouna et celui de. Le sujet de. De la Emouna et de Kiddush Hashem, c'était ça, c'est la raison pour laquelle Hashem fait des miracles, en fait, pour fortifier la Emouna. Donc ça, c'est le fameux sujet de... De Paraaduma. Maintenant, il y a les Bnei Israël quand ils se plaignent, ce qui va avoir des conséquences importantes. Ils se sont plaints, on va parler de ça aussi, c'est important. Ils se sont plaints de la manne. Les Israélites étaient donc capables de parler de la manne et d'en dire que c'est un lechemak lokel. Ils disent. Tout ce qu'on a, nous, c'est la manne. Mais la manne, c'est un pain cloquel. Cloquel, ça s'écrit kouf lamed. C'est-à-dire cal. On répète syllabes, on répète les lettres, c'est pour accentuer ce qui a été dit précédemment. Donc, cloquel, ça veut dire super cal, léger. Une nourriture super léger qui donne aucun lest. En fait, vous n'avez pas, quand vous avez mangé avec la manne, vous n'avez pas la peau du ventre bien tendue, en quelque sorte. Vous avez tout ce qu'il faut, mais physiquement, exister de la même manière que quand on a vraiment manger au sens habituel du terme. Mais les Bnei Israël, ce pain-là, c'est vrai qu'il a peut-être ce défaut-là, mais il a une qualité, c'est que cette manne-là, elle a le goût que tu veux. Là, ils disent, les Bnei Israël se sont plaints de la manne, envoyer j'aime envoyer les fameux serpents qui brûlent là. Chazal disent Yavo, que vienne celui pour lequel toutes les espèces ont le même goût. parce que lui, il se nourrit de la poussière, donc tout est poussière pour lui. Il va venir faire payer ceux pour lesquels une chose à tous les goûts du monde. C'est-à-dire que dans cette manne, une nourriture complètement spirituelle, bien entendu, les goûts qu'on peut souhaiter étaient là. Tu souhaites que c'est ce goût-là, ça a le goût en question. Bon, les Bnei Israël n'ont pas du tout apprécié ça. Ils ont dit, nous, on veut de la viande, on veut des vraies choses, et pas de la nourriture spirituelle. Heureusement, Hachem a cédé. On leur a donné cette nourriture. C'est surprenant dans la mesure où on est passé d'une nourriture qui est la nourriture des anges, la nourriture des entièrement spirituelle, à une nourriture gravement matérielle. Donc ça veut dire que les Israël sont en dégringolé là. S'ils ne peuvent plus vivre au niveau purement spirituel. Alors, ils ont besoin de la leçon des serpents dont on a parlé avant, bien comprendre qu'en réalité, toutes les choses-là, tout ça, ça se passe, c'est Hachem qui décide, et en fait, vous devriez, en fait, les Israël auraient dû comprendre, c'est un privilège absolument fabuleux, que de pouvoir effectivement vivre de cette manière-là. Ils n'ont pas compris. Visiblement, ce n'était pas dans ce qu'ils étaient capables de comprendre. Voilà, on s'arrête là.